Mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Salut à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo avec Hélène, Valentin et Cécile. Plus précisément de musique de jeux vidéo et notamment de chiptune ou 8 bits et aussi de circuit bending. Moi, je n'y connais rien du tout. Du coup, est-ce que Cécile, tu peux nous en dire plus?
Bonjour. Alors, j'imagine les enfants que vous savez tous ce que sont des jeux vidéo. Je suis sûre que ça parle à plusieurs d'entre vous. Eh bien, la musique 8 bits ou chiptune, c'est la musique créée pour tes vieux jeux vidéo, comme par exemple Mario ou Tetris. C'est de la musique créée par une puce dans ton ordinateur, directement, plutôt que par des instruments. C'est apparu au Japon à la fin des années 70. Chaque puce est capable de créer une petite quantité de sons. Il fallait donc trouver des mélodies qui accrochent bien à l'oreille. Pour cela, Hélène est partie rencontrer Alexandra Briand. Je vous laisse la présenter. Hélène.
Oui, bonjour. J'ai rencontré Alexandra, qui est une artiste qui s'intéresse à plein de domaines. Elle s'intéresse aux arts plastiques, la photo, la vidéo, mais aussi à la musique. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'Alexandra fait du circuit bending. Donc, qu'est-ce que c'est le circuit bending? Elle va nous expliquer. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'Alexandra, c'est aussi une sirène. Vous allez me dire, mais quoi? Oui, Alexandra, c'est une fille aux cheveux bleus qui fait de la musique noise punk avec plein de synthés qu'elle a bricolés et des petits jouets. Mais qu'est-ce que c'est que la musique noise? Vous allez me dire, je fais une toute petite parenthèse pour vous expliquer. La musique noise, c'est un style musical qui représente du bruit qui fait de la musique, mais aussi de la musique qui est faite à partir de bruit. Du coup, elle va nous expliquer ce que c'est le circuit bending. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais?
Alors moi, je suis à la base artiste plasticienne. J'ai pas mal travaillé les installations, la photo, et puis petit à petit, je me suis orientée vers le son et vers la bidouille, un peu d'abord de manière très empirique. J'ai commencé à fabriquer mes propres instruments à partir d'objets, puis petit à petit à partir d'objets électroniques et notamment de jouets. J'ai commencé à faire du circuit bending quand j'étais encore à l'école, sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, on peut faire de la musique avec ça, vraiment. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la musique 8 bits, entre autres. J'ai continué le circuit bending et maintenant, je fais de la musique, on va dire, électropunk rigolote.
Un, quatre.
Alors, le circuit bending, le mot vient de Reed Gazala, qui a nommé ça en 66, il me semble. Et en fait, il s'agit de détourner des circuits, de court-circuiter des circuits déjà existants, d'objets à faible tension, du style les petits synthés, des radios, des jouets d'enfants. Le plus connu, on va dire l'exemple le plus connu, c'est la dictée magique. Très vite, des gens ont commencé à détourner cet instrument, en fait, parce que l'idée, c'est d'en faire des instruments de musique et de bidouiller dans le circuit en mettant des liaisons qui n'étaient pas prévues à l'origine pour modifier le son.
Quand tu étais petite, tu avais pas mal de jouets comme ça, électroniques, du coup
Un peu, j'avais un chat avec des petites mélodies. Quand on lui tapait dessus, ça a démarré une mélodie. Et la première chose que j'ai faite, ça a été de lui ouvrir le ventre et d'aller voir ce que c'était. Mais pendant des années, ça a été simplement démonter des choses sans rien en faire. ce qui m'a valu une collection énorme de carcasses de jouets et tout ça. Donc j'avais déjà le goût de démonter les trucs. Après, remonter, c'était une autre paire de manches. C'est venu plus tard.
Donc c'est vrai que tu parles de jouets. Je vois qu'autour de toi, il y a un téléphone pour enfants, donc avec... 4 touches, une Game Boy, un petit synthé avec un ourson.
Voilà, ça c'est les instruments dont je me sers pendant mon set pour faire de la musique. Certains ont des mélodies, d'autres des rythmes, d'autres des bruits en tout genre. En fait, bon, alors c'est des jouets souvent que je trouve, alors soit dans la rue ou dans les Emmaüs, c'est des jouets relativement anciens, plutôt années 90, début 2000, où les circuits sont encore, on va dire, assez gros. En fait, maintenant, comme tout est miniaturisé, c'est de plus en plus difficile d'aller directement les modifier, hein, tout simplement parce que c'est vraiment tout petit. Il y a un peu une démarche de recyclage, donc j'allais chercher mes jouets, voilà, dans tous les rebuts. Et donc voilà, par exemple, ça c'est un téléphone qui s'appelle Rigolophone. Je vais pas dire la marque, on va pas faire de pub, hein, mais l'idée c'était que ça a été un de mes premiers jouets, donc je l'ai ouvert et je suis allée trifouiller, bah, avec mes doigts, appuyer directement sur les points de soudure du circuit et voir comment ça réagissait. Et après, ben, en cherchant, mais de manière vraiment, vraiment empirique, essayer de mettre des composants au pif et voir ce que ça donne. Après, avec la pratique, on trouve plus facilement les points qui réagissent et quoi mettre comme composant. Mais en fait, avec, on va dire, allez, deux grandes catégories de composants, on peut déjà... faire pas mal de choses. Par exemple, sur celui-là, il y a des petits interrupteurs et des potentiomètres. C'est-à-dire, le potentiomètre, c'est comme les boutons volume sur les Shenify, c'est des résistances variables. Mm-hmm. Donc, ils vont du moins vers le plus. Ouais.
Et comment t'as appris tout ça ?
J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de ça, du circuit banni. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi je démonte des trucs, mais j'étais assez vite bloquée, on va dire, pour le côté électronique. Elle m'a dit, non mais vas-y, essaye, c'est pas compliqué. Et en fait, je me suis enfermée chez moi, j'avais une pile de jouets et j'ai essayé, quoi, tout simplement. Je m'y suis mise. Le premier, ça a marché. Je me suis dit, ah oui, c'est rigolo, ça marche et tout ça. Donc, j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, etc. Sinon, il y a pas mal d'ateliers qui sont organisés, notamment par des hackerspace, etc., des Fab Labs. C'est une bonne manière de s'initier aussi et de se décomplexer aussi, parce qu'en fait, un appareil, quel qu'il soit, électronique, on se dit, oh là là, c'est compliqué, je vais tout bousiller, je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai jamais su comment ça marchait, un circuit. Enfin, je veux dire, je vois le principe, hein, mais je sais pas comment les circuits fonctionnent. Par contre, j'essaye de les modifier vraiment en allant tâtonner dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment des connaissances électroniques pour ça, c'est juste oser. Et on trouve assez facilement maintenant aussi des gens qui mettent en ligne des tutoriels, en fait, directement sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur tel jouet, etc. Il y a même des listes des objets, on va dire, bendables et unbendables, ceux qui sont finalement pas très intéressants et qui valent pas le coup. Mais du coup, même quelqu'un qui n'a pas envie de passer des heures et des heures à chercher, on trouve en fait très facilement des petits tutoriels où ils disent exactement quel composant acheter pour quel modèle. Ils mettent les schémas et même des petites pastilles sur les points de soudure à faire. Donc en fait, maintenant, comme un tuto maquillage, on peut trouver des tutos électroniques vraiment à la portée de tous. Et il faut pas se gêner. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste de la facilité. C'est vachement intéressant et aussi de participer à cette communauté, c'est-à-dire soi-même de se dire ah bah tiens moi sur mon vieux jouet j'ai trouvé ça et pourquoi pas poster une photo et dire ah bah moi j'ai fait ça et
compléter
voilà ouais. C'est-à-dire que c'est toujours un peu un work in progress où pas mal de gens disent interviennent et s'entraident et disent ah ouais t'as trouvé ça mais moi j'ai trouvé ça et ça fait comme ça évoluer des instruments qui ça devient des bêtes de compète.
Eh bien, merci Alexandra pour cette belle interview et merci à Hélène aussi d'être allée lui poser ces belles questions. Alors là, on vient d'entendre un morceau de Zelda. C'est le premier Zelda qui est sorti sur la Nintendo NES il y a très très longtemps, dans les années 80. Et vous remarquez que la musique est un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle la musique 8 bits ou autrement appelée la musique chiptune. C'est de la musique qui est faite avec des puces électroniques qui étaient intégrées dans les consoles de jeu et qui permettaient d'accompagner toutes les parties des joueurs de l'époque avec des morceaux très connus comme celui qu'on vient de passer. Alexandra s'y connaît également en musique chiptune et elle nous en a parlé.
La chiptune, c'est la musique qui vient de la puce en fait. C'est une musique qui est apparue avec, il me semble, les premières consoles Amiga. C'est-à-dire que là, on a commencé à se poser la question de faire de la musique avec ces bandages, d'abord pour les jeux, en fait, faire de la musique pour les jeux. Et le principe, c'était de faire une musique qui prend le moins de place possible. C'était de faire, en fait, de la musique avec très peu de données. Et c'est pour ça que ça s'appelait 8 bits. C'est en fait un format de compression, en quelque sorte. C'est une synthèse qui ne prend pas beaucoup de place. Et c'est pour ça que ça donne une musique très typique, qu'on retrouve un petit peu aussi dans les jouets, parce qu'on utilise très peu d'informations. Et ça a tout de suite une couleur très reconnaissable. On reconnaît tout de suite, ah tiens, c'est une musique de jeu. Et du coup, c'est depuis la chiptune, et je pense, existe à peu près depuis la fin des années 70. Le circuit bending, c'était un petit peu avant, mais en fait, niveau sonorité, on s'y retrouve. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis après à faire ce qu'on appelle des logiciels, des trackers, pour pouvoir directement composer de la musique sur des consoles. Alors, ce qui est le plus connu, c'est la musique avec la Game Boy, parce que tout le monde en a une, et qu'on peut facilement charger un logiciel sur une cartouche de Game Boy et composer en fait directement sur sa Game Boy. Et en fait, maintenant, il y a un retour, c'est-à-dire qu'on ressort des versions Tetris, etc., avec les sons d'origine. Il y a vraiment un retour sur ces premiers sons qui sont vraiment très, très typiques. Donc, c'est drôle de voir que finalement, ce qui était une contrainte technique au départ est devenu vraiment une signature. Et maintenant, en plus, quelque chose qui rappelle nos générations, beaucoup, notre enfance et... Nos premiers, premiers jeux et premiers émois de gamers.
Et bien voilà, vous en savez désormais un petit peu plus sur la musique 8 bits. Pour voir si vous avez bien compris le principe, on va vous passer une musique de Michael Jackson qui s'appelle Billie Jean en version originale, c'est-à-dire jouer avec les instruments de l'époque, les instruments, une guitare, une basse, une batterie. Et ensuite, on va vous diffuser un extrait de la même musique, mais en version 8 bits.
D'entendre le morceau 8 bits ?
Alors pas du tout. Le morceau 8 bits, on va l'écouter tout de suite. Et voilà, c'est ça la musique 8 bits. Mais dans la musique de jeux vidéo, il n'y a pas que la musique 8 bits. Il y a aussi la musique 16 bits, la musique 32 bits, 64 bits, et ainsi de suite, des musiques qui deviennent de plus en plus fines et de plus en plus précises pour arriver aujourd'hui à des musiques que l'on peut écouter normalement comme des fichiers MP3, c'est-à-dire de la musique avec des vrais instruments. Il n'y a plus de limite de stockage. Par exemple, la musique 16 bits a des basses plus profondes, a des batteries plus puissantes. Et on peut l'écouter dans la musique de Sonic, la Green Hill Zone, c'est le premier niveau du jeu. Et vous allez voir la différence avec la musique 8 bits, la musique est un petit peu plus fine.
C'est super la musique 16 bits. Pour ma part, je pense que je préfère la 8 bits au niveau du style.
Alors, il y en a pour tous les styles. Et je crois que tu as quelque chose à me dire d'ailleurs sur l'esthétique des jeux vidéo et sur les pixel art.
Oui, comme tu disais, avec les nouvelles technologies et les consoles de jeux vidéo qui étaient plus puissantes et qui gagnent en qualité sonore, il y a aussi pour le visuel la même chose, mais avec l'art du pixel, donc le pixel art. Mais qu'est-ce que c'est un pixel d'abord ?
Un pixel, en fait, c'est chaque point sur un écran d'ordinateur ou de télé. C'est chaque point qui représente une couleur pour faire une image numérique. Et le pixel art, au tout début des écrans, donc dans les années 70-80, les écrans étaient de très faible qualité et les pixels étaient très gros. Donc, c'était de très gros carrés de couleurs. Donc, les personnes infographistes et tout ça qui concevaient des personnages de jeux vidéo ou des décors ou même la résolution des photos qui s'affichaient sur nos écrans, on voyait bien les pixels, le contour des carrés. Et ça, c'est devenu un style aujourd'hui parce que nos écrans sont de très bonne qualité. Les pixels sont de plus en plus petits, donc on les distingue plus. Les jeux vidéo, leurs images sont parfaites, ressemblent vraiment à la réalité. Mais le style de l'art du pixel reste à part entière. Donc vous pouvez voir, vous avez peut-être déjà vu ça dehors sur les murs, les Space Invaders. Je parle pas
Space Invaders.
Oh, merci beaucoup Valentin. C'est les petits aliens comme ça en carré pixel collés sur les murs ou peints parfois. Donc voilà, l'art du pixel.
Bien, ça tombe bien que tu parles de l'art du pixel, parce que c'est aussi un art qui est un peu en vogue en ce moment dans les jeux vidéo indépendants. Et c'est aussi des jeux en pixel art qui s'accompagnent d'une musique 8 bits. Donc finalement, toute cette musique qui date des années 80-90 se réadapte actuellement dans des jeux vidéo beaucoup plus récents. Par exemple, on va vous faire écouter un morceau du jeu vidéo Fez, qui est sorti il y a quelques années sur les consoles récentes. C'est une musique qui a été composée par Disaster Peace. C'est un musicien qui compose quasiment exclusivement en 8 bits ou en 16 bits, en tout cas en chiptune. Et il fait de très beaux morceaux pour beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Et on va tout de suite écouter le morceau Adventure.
Eh bah dis donc, quelle aventure il nous a fait découvrir, ce Disaster Piece. Alors les enfants, est-ce que vous avez bien compris ce qu'est le 8-bit ou le chiptune et également le circuit bending? Aujourd'hui, on vous a parlé de tout cet univers de jeux vidéo. Donc, vous avez le pixel art, qu'est-ce qu'un pixel? Un petit carré de couleurs qui, assemblés à d'autres carrés de couleurs, font une image. Ensuite, on vous a parlé, bien entendu, du circuit bending. Qu'est-ce que c'est faire de la musique avec des vieux jouets? Génial! Vous pourrez trouver des ateliers, si vous vous renseignez, autour de vous qui pourront vous apprendre. Et ensuite, on vous a bien sûr parlé de la musique 8 bits ou le chiptune ou la musique 16 bits, 32, 64, qui est donc de la musique créée avec des puces d'ordinateur. Et voilà, j'espère que ça vous a plu les enfants. Du coup, retrouvez-nous très bientôt dans l'émission mercredi et passez une très bonne après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Salut à tous.
Mercredi. 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 Mercredi.